Salut à tous, c'est reparti pour les trois quarts d'heure de cette équipe version football. Aujourd'hui avec Vincent Rigonnet de Blue Sport ainsi que Daniel Visentini et Valentin Schnorch du Sport Center, on parle forcément de Servette, de ses ambitions et du plus long terme. On cause aussi du Lausanne Sport qui semble être englué dans le jour de la marmotte. On parle aussi de Yverdon et du mouvement des ultras de ce week-end. Bonne écoute! C'est parti pour les trois quarts d'heure de cette équipe avec Vincent Rigonnet, salut.
Salut.
Avec Valentin Schnorch, salut Valentin.
Salut à tous.
Et Daniel Visentini.
Bonjour tout le monde.
Bon, on commence avec toi Daniel, c'est l'euphorie, c'est le cruise control, on a l'impression que rien ne peut arriver à cette Servette-là, même si en face, c'était quand même pas grand-chose ce week-end.
Ouais, alors bien sûr, faut relativiser, nuancer, parce que le SLO a finalement que peu d'arguments à faire valoir, et encore moins quand après moins d'un quart d'heure de jeu, il est déjà mené 2-0 au score avec une bourde phénoménale de Kadima qui donne la balle à Ondua pour le 2-0. Donc oui, effectivement, on va nuancer, mais Servette est en contrôle. Et Servette arrive à être en contrôle maintenant contre des équipes différentes. Et c'est ce qu'il n'arrivait pas à faire avant. Il va à Saint-Gall quelques jours plus tôt. Saint-Gall, ça n'a rien à voir avec le SLO. Saint-Gall est en pressing, Saint-Gall est en contre-pressing, Servette ne s'avole pas, il est en contrôle pendant tout le match pratiquement. Il arrive contre le SLO avec 5 défenseurs sur la ligne arrière, 4 juste devant, donc un bloc bas de 9 joueurs pratiquement. Il ne s'affole pas et dès le début, ils arrivent à faire la différence. Donc oui, il y a une énorme sérénité qui porte les Grenats, un très haut degré de confiance et ça autorise bien des espoirs dans la famille Grenat, oui.
Vincent, il y a un truc avec ce Servette, c'est que tu as l'impression qu'il ne peut pas arriver grand-chose finalement sur un match comme ça, alors que ça peut être des matchs pièges. Hein. On a vu le SLO avait réussi son coup à Lugano, mais là, le match plié rapidement, tranquille.
Il y a une prise de confiance, mais tu aurais pu avoir le spectre de ce qui s'est passé contre Winterthur, où Servette menait aussi son match et s'est fait reprendre. Alors, ça a été dit par Daniel, hein, le SLO n'a pas cette qualité-là qu'à Winterthur, mais... Tu peux te dire, peut-être que ça peut se transformer en match piège au fil du match avec la réduction du score. Puis en fait, non. Comme tu as dit, il y a une confiance, il y a une régularité, il y a pas grand-chose qui peut arriver à ce Servette-là. La série, elle est incroyable, elle est magnifique. Elle était aussi inattendue en début de saison qu'elle est belle maintenant.
Valentin, ce SFC, on a vu la progression, on a vu que René Weiler arrive à emmener l'équipe avec lui. On voit ce qu'il veut en faire.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui me plaît avec ce Servette en ce moment, c'est que de plus en plus, c'est un Servette qui est reconnaissable, qui sait à peu près à chaque fois ce qu'il veut faire. Il a des principes forts qui répercutent à chaque fois. Il ne s'embête pas trop avec le ballon. Il y a une projection sur rapide, notamment la récupération, mais aussi quand il a la possession. Il y a beaucoup d'intensité qui est mise. Ça veut presser plus ou moins haut, mais ça veut presser. Ça met de l'intensité aussi à la perte. Il y a une volonté de surpasser l'adversaire, d'être fort par rapport à l'adversaire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et tu ne te dis jamais qu'un Servette-là a complètement raté son match. Il peut rater des séquences de match, comme on a vu à Winterthur, comme on avait vu contre Lugano avant la trêve. Mais en 2024, il sait plus ou moins ce qu'il veut faire à chaque fois. Et on retrouve des principes qui sont forts. Ce n'est pas toujours...
Ouais.
Esthétique, mais ça me plaît en tout cas.
Il y a une évolution qui est très intéressante aussi, c'est que, et c'est pas pour faire qui est meilleur, Geiger ou Weiler, mais il y a une évolution naturelle qui se fait. La prise de confiance, elle a été effective grâce à Geiger. Il y a une évolution vers quelque chose d'autre, dans un autre système bien sûr. Et ce qu'on peut constater, c'est que le Servette de la saison dernière et même des saisons précédentes, quand il était en difficulté, existait par ses individualités. Elles étaient formidables avec du Stevanovic, avec du Great Junkie à l'époque, avec un Cognat extraordinaire en pétrolette au milieu, super technique, qui fait les différences. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit un Servette qui est capable d'exister sans ses meilleurs joueurs, même sans Stevanovic à Saint-Gall, par exemple, et qui existe collectivement maintenant. Il y a une force collective qui existait déjà d'une certaine manière, mais qui se calque maintenant en plus des individualités. Et ce Servette-là, pour cela, devient plus fort.
Vincent, là où René Weiler a gagné en crédibilité, parce qu'il n'est quand même pas passé très loin de l'ORP, mais on voit qu'il a aussi gagné en crédibilité, c'est que maintenant, même au niveau des hommes, il peut choisir son groupe, j'ai l'impression.
Ouais, il a plus de possibilités, les joueurs sont plus interchangeables aussi, mais peut-être parce qu'ils comprennent mieux le projet, ils comprennent mieux ce qui est attendu d'eux. Aussi parce que le jeu de Servette, mais là Valentin, il sera plus apte à en parler en détail, mais il est évidemment moins monotype qu'il l'a été par le passé. Et puis maintenant, eh ben, en fait, Servette, c'est une équipe qui est capable de s'adapter aussi, qui est capable de jouer différemment selon les contextes des matchs. Et c'est vrai, on se repose pas que sur des individualités. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des joueurs qui tirent leur épingle du jeu. Hein. Il y a des Kutesa qui sont excellents cette saison. Un Bola, qui est pour moi une super arrivée. Un Tsunemoto, qui est un très bon joueur quand il a enfin retrouvé son pic de forme. Donc il y a quand même quelques joueurs que tu peux dire, ah ouais, là, il y a des points forts de cette équipe-là. Mais c'est vrai, René Weiler, il a aussi plus de choix à disposition selon ce qu'il fait avec son équipe.
Valentin, les deux recrues, là, bah, parle-nous un peu. Est-ce que c'est vraiment un truc qui colle à ce que voulait Weiler?
Ça colle en termes de profil, déjà en termes de poste. Donc, Marek qui est défenseur central. Bassirou Ndiaye qui est attaquant, a priori un attaquant qui peut prendre la profondeur. Ça peut être assez intéressant. Ça vient compléter l'effectif. En fait, Servette n'avait pas. Même s'il a perdu Bedia, Servette n'avait pas forcément besoin absolument d'un grand titulaire. Si Nzamé était venu, personne n'aurait rien eu à redire. Mais il a pas forcément besoin de. Il n'a pas des trous, en fait. Servette, il a des trous sur le banc, éventuellement. Mais il n'a pas des trous dans son 11 type. Ça vient compléter, ça vient donner plus de solutions. Parce que Weiler aura besoin de trouver des solutions à certains moments de la saison. Quand il y aura un blessé derrière, quand il y aura un suspendu, quand il y aura. Enfin, voilà. Il y a encore la Coupe d'Europe, il y a encore la Coupe de Suisse à jouer. Et il y a des moments où il devra faire tourner un petit peu son effectif. Et on voit que pour l'instant, il a un petit peu de peine à instaurer un certain roulement quand même. Parce qu'il y a pas mal de joueurs en qui il ne croyait pas. Et donc, la plupart d'entre eux sont partis ou sont déjà écartés de facto. Donc oui, c'est important d'avoir ces recrues, mais c'est important surtout pour compléter l'effectif plus que pour donner un nouvel élan.
Daniel, on en parlait, hein, la clé pour Servette, on pensait que ça allait peut-être être la capacité de remplir les bottes, comme on traduit en québécois, de Chris Bedia. Mais en fait, le cactus Crivelli et Guimeneau, bah, ça fait le job, hein, pour le moment.
Ouais, ça fait le job, mais ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Je suis en train de creuser un peu. Ils sont sur un attaquant là actuellement. Et il y a encore un défenseur qui va venir. Donc Servette prépare l'avenir. Et c'est ça, parce que Servette va préparer l'avenir. Enfin, faut pas oublier, par exemple, que un Gredzsöcske qui débarque à Servette, il lui faut pratiquement une saison pour donner son plein rendement. Un Chris Bedia, il est arrivé sans doute blessé, mais il lui a fallu plusieurs mois avant de devenir le Chris Bedia qui était meilleur buteur avant de partir en Allemagne, à Berlin. Donc ça demande de l'anticipation et c'est ce que Servette fait. Servette n'a pas les moyens pour s'attacher les services d'un type comme Bedia, capable de marquer 10 buts à la mi-saison et encore 10 buts après. Ça coûte trop cher pour Servette. Ils sont obligés d'anticiper et Ndiaye, il s'inscrit dans ce cadre-là. Il a un fort potentiel de développement et Servette va devoir travailler avec lui. On ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être qu'il sera opérationnel très rapidement avec Servette, mais peut-être pas. Et à ce moment-là, bah, c'est bien d'avoir déjà en backup bah, un autre qui va arriver, d'avoir Crivelli, d'avoir Guimeneau. Enfin, c'est cet entretien-là du contingent qui est intéressant à Servette.
Et ce qui est intéressant aussi, ça dit un certain aspect de la politique actuelle des dirigeants servettiens, c'est que ce sont deux joueurs qui arrivent en prêt, mais en prêt avec des options d'achat. Donc, c'est évidemment que c'est pour compléter l'effectif maintenant, mais il y a quand même une vision à plus long terme. Alors, si ça se passe mal avec l'un ou l'autre, évidemment que l'option d'achat ne sera pas levée. Mais Servette, ça donne la chance d'étoffer son effectif en ayant des joueurs qui ne sont pas sous contrat, enfin, qui sont sous contrat, mais à courte durée maintenant, mais à la possibilité de les inscrire ensuite sur un temps plus long avec des options d'achat qui sont tout à fait abordables pour Servette. Parce que c'est leur envie, c'est de garder cette possibilité d'engager les joueurs et pas simplement leur donner un peu d'exposition, quoi. Donc ça, c'est
C'est
assez intéressant.
la politique du club d'ailleurs. Servette ne fera jamais de prêt sans option d'achat.
Vincent, j'ai l'impression que c'est le deuxième pas de l'évolution de Servette. D'abord, c'était se stabiliser au niveau, et maintenant, c'est voir plus loin, quoi. Parce que bah, les résultats sont là, tu as la stabilité, tu peux te permettre même des paris, tu peux te permettre d'avoir des joueurs que tu penses déjà pour un futur proche.
Bon, alors, chaque année, l'objectif de Servette, c'est faire mieux que la saison dernière. Et à force, si tu fais à chaque fois mieux, bah, forcément, tu vises le titre à un moment donné. Moi, ce que je trouve intéressant, et c'est logique, hein, ce que dit Daniel, c'est vrai, en Suisse, il faut être réaliste. La plupart des clubs, ils n'ont pas les moyens d'aller chercher à l'hiver un buteur qui est prêt à maturité et en confiance. Donc forcément, tu dois miser soit sur des jeunes qui n'ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves, soit sur des joueurs qui ne sont pas dans une incroyable confiance, en sachant que voilà, le profil est intéressant, ce qu'ils proposent peut s'adapter à notre système de jeu. Et ce qui est valable pour Ndiaye, parce que Daniel l'a dit, hein, ni Bedia, ni Kay, quand ils sont arrivés, ils étaient dans une forme incroyable, mais avec le temps, ça s'est fait et Servette leur a fait confiance. Donc ce qui est valable pour Ndiaye pour un attaquant, c'est aussi pour Rekik. C'est deux joueurs qui ont 21-22 ans, qui n'ont pas une expérience au niveau pro énorme. Hein. Ils ont joué dans des équipes de jeunes, ils ont joué quelques matchs par-ci par-là de championship pour Rekik. Ndiaye, je crois que c'est une à deux apparitions en Ligue 1. Bah, il va leur falloir du temps à s'adapter et à un nouvel environnement et à un niveau pro. Mais dans l'ensemble, je trouve que la vision de Servette, elle est juste. C'est la manière de travailler en Suisse, c'est ce que tu dois faire. Et des prêts avec options, c'est en effet très intelligent.
Mais après, Daniel, on a ce petit problème, c'est que cette année, Ball n'est pas là, IB est touchable. Est-ce que ce n'est pas cette année que tu peux aller gratter un vieux titre? Ce n'est pas cette année qu'il faudrait justement investir pour passer ce step définitif?
Mais malheureux, que dis-tu? Personne ne veut parler de titre à Servette, enfin.
moi, j'en parle, c'est pour porter le jinx.
Mais tu fais bien, parce qu'au bout d'un moment, il faut appeler les choses par leur nom. Servette est actuellement sur une série de 15 matchs sans défaite en championnat, 10 victoires, 5 nuls, 3 victoires de suite pour ce qui est de la série en cours actuellement. Servette est à 6 points de Young Boys, et comme tu l'as souligné, Young Boys n'est plus aussi dominant ou aussi effrayant qu'il l'a été par le passé. Donc effectivement, Servette a son mot à dire et doit penser au titre. Cela dit, peu importe que Servette y arrive ou pas, le fait d'y penser, c'est déjà bien. Et Servette s'en donne les moyens, parce qu'on pourrait très bien se dire, ok, on a pris Ndiaye, on ne prend pas un autre attaquant. Or, il recherche actuellement un joueur offensif capable de jouer en 9,5, en 10, voire en attaquant. Et il cherche encore à se renforcer derrière pour avoir une solution de rechange en plus, parce qu'actuellement, ils n'ont que 3 défenseurs centraux, donc les deux titulaires habituels, Rouillet-Séverin et puis Rekik qui vient d'arriver. Ça va peut-être demander un petit peu de temps. Il y a un quatrième qui va arriver pour doubler tous les postes, donc les choses se mettent en place, et oui, les ambitions sont là, mais Servette n'a pas les moyens d'IB, il ne faut pas se leurrer, ils n'auront jamais le banc d'IB, en tout cas pas pour les temps à venir assez proches, pour le court terme, mais ça se construit comme ça, et si Servette continue sur cette série, bah, évidemment tout deviendra possible, mais ils ne se mettent pas la pression, et ils ont bien raison.
Tu prouves, Valentin, qu'ils ont bien raison de ne pas se mettre la pression?
Oui,
on a vu IB samedi.
Ouais. Oui, non, mais sur IB, je partage totalement ton regard. Hein. Enfin, moi, je passe la saison à m'emmerder à regarder les matchs IB, donc ça, ça faisait quand même un petit moment que c'était pas aussi, aussi morne d'aller regarder cette équipe-là qui avait avant une démonstration de puissance sur chaque match qu'elle pouvait aborder. Mais pour revenir à Servette, il y a un moment, évidemment qu'il y a une forme d'opportunité qui peut se dégager. Mais comme Zurich l'avait saisi cette opportunité-là il y a deux saisons, mais on a vu ce qui s'est passé derrière. Donc je pense que l'enjeu pour Servette, c'est de grandir à sa dimension, petit à petit, étape par étape, comme il a fait depuis 2015, depuis que la Fondation 1890 a repris le club. Je pense qu'on est déjà très avancé par rapport à il y a deux ou trois ans. Et j'ai bon espoir qu'à Servette, d'ici 2 ou 3 ans, ce sera encore plus grand, l'institution sera encore plus forte, il y aura des structures qui seront encore plus fortes aussi, bien renforcées. Je pense que c'est là tout l'enjeu pour Servette, c'est de se stabiliser pour être un club important dans les 10, 15 prochaines années dans le football suisse, et être un IB des 10 ou 15 prochaines années, d'être le Ball d'il y a 10 ans pour les 10 prochaines années. Donc c'est ça que Servette doit penser. Et s'il a l'opportunité de gagner un titre, d'avoir une aventure européenne, de gagner une coupe, c'est simplement ce qui va donner du crédit à son projet et puis gagner en crédibilité, en légitimité sur la scène nationale et internationale aussi. Et ça va permettre peut-être un jour ou l'autre d'aller chercher des joueurs qui, eux, sont un peu plus, ont un peu plus de, d'expérience, de référence au très haut niveau. Donc voilà, donc Servette doit y aller étape par étape, mais surtout pas rechigner sur la possibilité de gagner quelque chose.
Vincent, il faut juste bien rester. C'est une crête fine. Hein. Se structurer pour la suite, ne pas s'enflammer, mais quand même jouer le truc.
Ouais, mais faut. Je veux doucher les espoirs de personne, hein, Robin, tu as dit avant, Zurich avait saisi sa chance. Mais la saison où Zurich, ils réussissent leur titre surprise, c'est pas qu'IB était touchable, c'est que IB était au fond du trou. Enfin, c'était un IB vraiment qui était en retard. D'ailleurs, Zurich était devant au classement à l'hiver, ce qui a fait que Zurich a pu tenir cette avance. Actuellement, il y a 6 points d'écart. C'est énorme, 6 points. Enfin, 6 points, c'est ce qui sépare Bâle du top 6. Et on dit, ah, ça va être compliqué pour le FC Bâle. Mais c'est possible pour Servette d'aller chercher IB. Donc, il faudra voir au soir du 25 février, parce que c'est là qu'il y aura le IB Servette, si vraiment Servette a la capacité d'aller chercher IB. Il faut déjà rester au contact jusqu'au 25, ensuite battre IB au Wangdorf. Puis après, alors là, on va commencer à discuter de est-ce que Servette peut aller chercher le titre. Mais pour ce qui est de la structure et de l'évolution du club, elle est évidente. On passe d'un club qui est en Challenge League il n'y a pas si longtemps, qui se retrouve maintenant à jouer le haut du classement Super League. La difficulté, c'est évidemment de se stabiliser à ce niveau-là, ce que Servette a quand même bien fait avec Alain Geiger. Maintenant, il faut continuer à le faire, et à l'interne et sur le terrain.
Passons quelques kilomètres plus à l'est, avec un peu moins de réjouissance. Bah, Valentin, je vais direct vers toi. Alors, tu dis que tous les matchs d'IB, tu t'embêtes un peu, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est le jour de la marmotte à la Tuyère ?
Oui, c'est... Comment dire ? Je pense que le Lausanne a pas mal de problèmes actuellement à développer son jeu, à trouver des solutions. Le Manien est quand même un petit peu embêté par le fait de devoir aligner Sen et Labo à chaque match. Est-ce qu'il cherche des solutions? Est-ce qu'il en a vraiment? Ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut trancher et discuter. Mais le gros problème de Lausanne, c'est qu'en fait, il n'a pas de souci à arriver dans le dernier tiers du terrain. Mais dès qu'il arrive dans le dernier tiers du terrain, il ne se passe quand même pas grand-chose. Et c'est dans ce cadre-là que c'est peut-être un petit peu déraisonné, mais l'arrivée de Pafundi peut incarner une forme de lueur d'espoir, parce que lui, il a ces inspirations-là, et lui, il peut avoir des idées, il a quand même une qualité technique à toucher le ballon qui est extraordinaire pour la Super League. Et on en est là avec Lausanne, c'est que le moindre petit joueur, tout prodige qu'il soit, tout grand espoir du football italien qu'il soit, il peut représenter quelque chose une forme de fraîcheur qui peut changer un petit peu la donne. Et je crois qu'actuellement, Lausanne a surtout besoin de fraîcheur, en fait, parce qu'il y a une forme de redondance dans ses prestations, une forme de morosité dans ses prestations qui amène cette nécessité-là.
Vincent, on a vu ce LS là samedi, c'est le même match que d'habitude. Tu as l'impression que les adversaires, ils mettent un but et ils sont tranquilles après, parce que tu sais qu'il ne va pas se passer grand-chose, à part éventuellement un penalty VAR où là, Lausanne pourrait éventuellement marquer. Le LS, c'est ce que je disais il y a deux semaines, hein. Et puis on se répète un peu à chaque semaine. Il y a toujours le même truc, t'attends une fin différente, ce qui ne peut pas marcher, ce qui peut mettre le LS en grand danger à l'arrivée.
Matt a parlé du syndrome de la marmotte. Le problème, c'est que les joueurs aussi, je pense qu'ils ont ce sentiment de déjà-vu à chaque match. Et en fait, ils ont la peur du déjà-vu. C'est que même si les matchs ils se passent bien en début de partie, alors moi, j'ai le match de Zurich en tête, parce que c'est pour moi le plus marquant. Ils mènent 2-0, ça se passe bien, et puis tout à coup, il suffit de la moindre erreur pour que ça s'écroule. Je trouve que le LS est maudit par des erreurs individuelles à chaque match, et elles sont à chaque fois provoquées par des joueurs différents. C'est ça qui est étonnant, c'est que tu as un match où Roach, tout à coup, il oublie d'employer le ballon, il le perd dans une zone super dangereuse. Kalou, qui est un joueur offensif, qui vient aider pour défendre, mais qui en fait fait pire en redonnant la balle à l'adversaire. Et Letizia, l'autre jour à Zurich, qui donne la réduction du score, puis qui n'est pas non plus impeccable sur le 2-2 zurichois. Donc, en fait, à chaque match, l'équation de Yannick Magnan, ça doit être de se demander, c'est lequel aujourd'hui qui va me pourrir mon résultat, quoi. Et c'est difficile à gérer, parce que je pense en effet que le vestiaire le vit mal. Et si on parle de Pafundi, et Valentin l'a relevé, c'est parce que lui, il vient pas de ce contexte-là. Lui, il vient pour jouer au foot, puis il a pas tout le background qu'ont les autres joueurs de Lausanne depuis le début de la saison, qui est, ouais, on fait des bons matchs, mais les résultats, ils sont jamais en notre faveur, quoi.
Daniel, c'est là peut-être qu'on voit que Lausanne fait maintenant partie d'un groupe. C'est que cette recrue, justement, Pafundi, alors si extraordinaire qu'il soit, on verra bien est-ce que c'est vraiment un gars de 17 ans de porter ça sur ses épaules. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas une recrue faite pour lutter contre la relégation. Je pense qu'il... Alors, Ludovic Magnin a décrété l'état d'urgence enfin, apparemment, après le match. Mais je n'ai pas l'impression que c'est un profil comme Pafundi qui va te sauver des âpres bastons contre la relégation, où il faut quand même y aller, quoi.
Enfin, Pafundi ne va pas défendre comme un malade mental, mais en revanche, puisque le problème est la zone 3, cet endroit, le moment, la zone de vérité, l'endroit où on doit faire une passe décisive, l'endroit où on doit faire le geste décisif, alors là, Pafundi a son mot à dire. Et cet élément-là, ce catalyseur de certaines occasions ou actions qui fait cruellement défaut à Lausanne depuis que Alvin Sanchez s'est blessé, et ben c'est précisément un élément qui peut donner une étincelle. Cela dit, à Lausanne, et tout le monde l'observe, la fébrilité, la peur, elle est contagieuse. C'est bien pour ça, comme l'a souligné Vincent, qu'il y a plusieurs joueurs qui font des fautes les uns après les autres. Donc, de la capacité de Lausanne à faire face à ce moment douloureux et à trouver des solutions, peut-être grâce à Pafundi, bien sûr que c'est beaucoup de responsabilité sur les épaules d'un gamin de 17 ans, tout brillant qu'il soit, mais néanmoins, lui, il arrive débarrassé de tout le reste et il va peut-être pouvoir apporter un petit peu de folie dans ce Lausanne qu'on a besoin. Après, on va toujours être rendu aux mêmes conclusions, quoi. Je veux dire, quand Sen arrive seul devant le gardien, c'est tout juste si le gardien se dit pas bon bah ça va, c'est Sen, parce qu'il va rater. Il en a raté je sais pas combien, des énormes. Donc au bout d'un moment on dit ouais, c'est bien qu'un attaquant se crée des occasions. Au bout d'un moment il faut bien aussi qu'il les mette au fond, parce que sinon c'est quand même très problématique. Et je sais pas s'il y a pas d'autres solutions à trouver que Sen, parce que là il est dans une spirale terriblement négative, le pauvre.
Vincent, on entend hein, comme quoi les prix seraient triplés pour l'ELS, parce que Nice, parce que Manchester. Moi, je ne comprends pas très bien cette excuse. Est-ce que c'est possible, ça, tu l'entends, toi?
Que les primes seraient triplées?
Les prix de transfert ou de salaire demandé par les
autres. C'est toujours le problème. Alors, c'est l'histoire du marché du foot, ça. Tu regardes toujours à qui tu vends. Et je crois qu'un club comme Paris peut en parler. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure le LS Ineos, il y a une surenchère des prix pour leur vendre des joueurs. Très, très franchement, je n'ai pas d'infos là-dessus. Mais je peux comprendre qu'on dise « Ah, mais on vend à un grand groupe ». Quand tu vends ton joueur à Salzbourg, tu sais que finalement, peut-être tu le vends à Leipzig, en fait. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Et puis, ce n'est pas impossible qu'il y ait des agents qui cherchent ou des clubs qui cherchent à faire monter les prix pour placer certains joueurs. Mais très franchement, je n'ai pas d'infos là-dessus, donc je n'irai pas plus loin. Par contre, j'ai des trucs sur Pafundi. Il y a deux éléments qui m'intéressent. Je vais agir vite. Le premier, c'est que son arrivée, elle va peut-être provoquer aussi le réveil de certains joueurs. Moi, j'ai vu un rare ailier tout à coup qui s'est dit « Ah, mais moi aussi, je suis technique, en fait. Moi aussi, je peux faire des trucs. Regardez, je suis capable. » Donc, son arrivée, elle va peut-être réveiller certaines envies. Alvin Sanchez, qui va faire son retour, il va peut-être aussi vouloir montrer que c'était lui le leader technique de cette équipe, puis c'est lui qui provoquait des occasions. Puis, un autre point, je pense que Pafundi doit faire aussi un tout petit peu attention à ses réactions, parce qu'on l'a déjà vu commencer à s'agacer, que les passes, elles ne venaient pas comme il fallait, ni où il les voulait. Et je peux entendre que certains joueurs s'agacent d'un gamin de 17 ans que tout le monde met en tant que prodige et un grand joueur de foot, venir t'expliquer comment il faut jouer. Donc attention aussi à la gestion de ça. Mais je crois que Ludovic Magnin était assez malin en disant « Attention, ce n'est pas Jésus, Pafundi, ce n'est pas lui qui va nous sauver. »
Valentin, on voit le Servette, hein, de la peine à trouver un numéro 9 directement adaptable, pour le LS aussi. Mais tu crois, toi, cette surenchère parce que Ineos?
Oui, sans doute. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi, je ne suis pas sûr que ça empêche d'avoir des bonnes idées, enfin des idées un peu plus malignes. Je crois que si Lausanne s'intéresse à un joueur qui n'est pas dans un club qui soit démesuré, qui ne soit pas à la hauteur du statut de Lausanne Sport actuellement, c'est-à-dire quand même, malgré tout, 11e du championnat de Suisse, avant-dernier du championnat de Suisse, il peut quand même trouver des solutions qui peuvent être intéressantes. Je suis désolé, moi, alors je ne sais pas honnêtement ce qu'il vaut, mais sur le papier, il y a un truc qui est un petit peu vendeur. Quand Winterthur va chercher un des meilleurs buteurs du championnat bulgare, Est-ce que vraiment Lausanne ne pouvait pas viser des profils comme celui-ci? C'est des, voilà, c'est, ça ne doit pas préserver d'avoir des bonnes idées. Après, oui, évidemment que si tu vas aller chercher, débaucher un mec pour une grosse somme de transfert, etc., eh ben, tu vas devoir assumer le côté Ineos derrière. Et puis Ineos doit aussi pouvoir assumer ça si vraiment il a des ambitions de fournir correctement le Lausanne Sport.
Bon, on a cinq petites minutes quand même pour parler d'Yverdon, hein, qui était face à un fantôme ce week-end et qui l'a emporté avec quand même à 11 contre 10 pendant un bon moment. Vincent, on a revu Yverdon qui dégage quelque chose un peu collectivement.
Ouais, c'est une équipe qui se bagarre un peu plus, qui a un peu plus d'envie. Il y a eu quand même des arrivées intéressantes. Pour moi, le meilleur transfert d'Yverdon, c'est Kevin Carlos, hein, qui était en prêt de Huesca et qui a été définitivement signé à Yverdon. Je pense que ça, c'est leur vraie arrivée phare. Parce que garder ce joueur-là, c'est aussi l'assurance de faire une plus-value à un moment donné, hein, parce que des buts, il va en planter. C'est un bulldozer, hein, l'Espagnol, devant. Donc ça, c'est une excellente chose pour Yverdon. Non, disons que ce match contre Zurich, c'est difficile de juger parce qu'en effet, c'était des fantômes en face, qu'il n'y avait rien, très franchement. Moi, je trouve que Yverdon gère pas trop mal son calendrier, qui était quand même difficile dans ce début 2024. Ils ont battu Lucerne, et c'était vraiment important de le faire à ce moment-là. Et puis cette victoire hier contre Zurich, qui est au plus mal, ben, elle leur fait énormément de bien parce qu'elle les écarte aussi des places 11 et 12. Et sinon, on retrouvait le trio vaudois en bas de classement. Donc Yverdon a fait le petit gap qui va leur faire du bien. J'attends de voir quand même pour juger si c'est vraiment une équipe qui a retrouvé un esprit d'équipe. C'est en tout cas une équipe qui est super surprenante parce qu'à chaque mercato, il y a des transformations en profondeur. Là, ce n'est pas qu'au niveau de l'effectif. Il y a aussi des choses qui se passent en coulisses. Mais sur le terrain, bah, c'est une équipe qui arrive quand même à faire des résultats.
Valentin, on sent que les deux Valaisano Genevois, les deux derniers anciens, en fait, ils font beaucoup à tous les niveaux. Hein, ils fluidifient les choses sur le terrain et il semble que leur apport soit presque au moins aussi important en coulisses.
Ouais, non, mais ça il donne un côté, pardon, il donne un côté un petit peu humain à cette équipe d'Yverdon qui arrive quand même à garder ça pour elle malgré toutes les recrues qu'elle a. T'as quand même quelques joueurs qui sont en guillemets locaux, hein, les locaux sautiers, le Poyam, Cespedes, Kevin Martin, etc., qui donnent un côté, un visage assez local, humain,
identifiable.
Identifiable, les pieds sur terre, enfin voilà, cette équipe-là. Et je pense que là où est quand même assez malin Mangiarati, c'est quand même de miser quand même beaucoup sur eux et de se raccrocher beaucoup à eux pour donner une forme d'équilibre à son équipe. Moi, je ne sais pas s'il y a vraiment un collectif qui a été perdu, etc. Évidemment que c'est plus l'équipe de la promotion, évidemment qu'il n'y a plus Philippe Baume, mais le fait qu'il y ait ces joueurs-là, ça a entretenu ce collectif-là. Et on voit qu'à chaque victoire, à chaque bon moment, bah, il y a une forme de joie collective qui se voit. Contre Lucerne, c'était le cas. Hier, après le troisième but contre Zurich, on voit Bernard Denis qui quitte ses buts pour aller fêter avec les autres. Enfin, bref, il y a quand même quelque chose dans cette équipe. Elle ne gagnera pas tous les matchs. Elle aura beaucoup de peine, sans doute à l'extérieur même. Mais à domicile, elle peut emmerder pas mal d'équipes.
Daniel, c'est une vraie auberge espagnole, hein, Yverdon. Avec ce côté justement des deux anciens servétiens, et c'est rajouté la belle histoire entre guillemets Paul Bernardoni, qui est un gardien très connu et très coté en France, qui a vraiment une histoire pas comme les autres depuis son départ en Turquie. Et ça rend quand même un petit peu sympathique Yverdon du coup.
Oui, avec tous ces déboires qu'il a vécu en Turquie, son chien empoisonné, tous les problèmes de salaire. Tout ça, le pauvre, on pouvait se dire, il va découvrir le championnat de Suisse dans un petit club sans être infamant pour Yverdon et ça va lui faire bizarre. Pas du tout. En fait, il est extrêmement heureux d'avoir retrouvé un club qui essaye de garder cette idée d'esprit familial en l'oubliant un peu aussi parce que c'est quand même près de 16 départs cette saison, 22 arrivées pour le travail dans la continuité. C'est compliqué. Et Yverdon va pouvoir faire des exploits contre certaines équipes, profiter de certaines circonstances comme contre Zurich, avec le fantôme de ce que Zurich a été ces dernières saisons. Et puis voilà, après, il y aura le test, c'est dimanche prochain. Il y a un Yverdon Servette pas piquer des hannetons, comme on dit, qu'il faudra suivre pour voir ce que peut faire Yverdon. Servette avait eu des difficultés à concrétiser des occasions. Il a été largement supérieur à Yverdon lors du match qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours au stade de Genève. Finalement, il ne s'est imposé que 1-0. Mais là, il y a effectivement quelque chose à faire peut-être pour Yverdon dans son stade face à ce Servette qui arrive en pleine confiance.
On reste au stade municipal pour la troisième partie. Valentin, je vais directement vers toi. Il y a eu des contre-parquages exceptionnels des ultras ce week-end. Lausanne, c'était sympa. Le plus marquant, je trouve, c'était vraiment à Yverdon, où les Zurichois ont envahi cette tribune et c'était assez phénoménal. Et je crois que le message est pas mal passé, là.
Oui, je pense que le message est bien passé. Donc, on rappelle un petit peu l'idée, c'est de dire, l'idée des supporters, c'était de dire, vous voulez pas qu'on aille dans nos parcages. Enfin, vous avez une perception décalée de la question du supporterisme, du monde ultra plus globalement en Suisse. Donc, on s'adressait aux autorités. Et ben, nous, on va simplement nous décaler. Donc, c'est au sens assez figuré, enfin, au sens propre et au sens figuré également. Et donc, ils sont tous mis dans des secteurs qui sont généralement réservés à des gens, à des spectateurs, entre guillemets, normaux, entre guillemets, lambda. Et alors, évidemment que tout s'est bien passé parce que ça aurait été sacrément contre-productif que les choses se passent mal. Ça aurait été quand même très con. Mais au-delà de ça, je pense que ça fait passer un message qui est quand même assez intéressant dans le sens où si on ne comprend pas en Suisse que le meilleur moyen d'éviter les problèmes dans les stades et en dehors des stades, c'est de baliser un maximum l'accueil des supporters, donc à savoir des supporters visiteurs qui iraient dans un parquage qui soit extrêmement fermé entre guillemets au reste du public, au reste du stade, avec un parcours qui soit déterminé, défini pour éviter qu'il y ait des gens éviter de se croiser avec le reste des supporters, mais aussi de la population entre guillemets normale. Le fait d'avoir des supporters qui sont dans leur propre secteur, là où ils se sentent bien, là où où on sait que, enfin, disons que les gens qui vont dans ce secteur-là savent pourquoi ils y sont. Tout de suite, on a sans doute un petit peu moins de problèmes. Et le fait de vouloir fermer ce secteur-là, ça amène des trucs très contre-productifs parce que les supporters, ils sont pas plus contre les autres. C'est pas des citoyens un peu moins développés que d'autres. Et ils savent très bien comment faire pour embêter le reste des gens, quoi, le reste des autorités, pour aller dans d'autres parcages, pour prendre d'autres tickets. Alors évidemment que si on est dans du fichage à l'extrême, peut-être qu'on peut éviter certaines choses. Mais ça me semblerait beaucoup de mesures pour des problèmes qui, dans les stades, restent finalement assez, assez rares et assez minimes.
Je vois que Daniel, ouais. T'es un peu colère.
Ouais, parce que franchement, petit A, dans les stades, sauf à considérer que les fumigènes sont un problème de sécurité nationale, il n'y a pas de souci dans les stades, c'est extrêmement rare. Donc, ça, c'est le petit A. Le petit B, c'est le caractère parfaitement injuste et inique des sanctions qui ont été prises. Je veux dire, fermer une tribune de supporters dans le cadre de Servette et de Lausanne, c'est interdire la vente des billets à des personnes qui n'ont rien fait, qui ne peuvent même pas aller voir le match. Mais je veux dire, on est où pour accepter ça, les yeux fermés comme ça? Moi, je suis scandalisé par ça. C'est une version caporaliste du traitement des problèmes qui est parfaitement inique et je ne sais même pas si c'est normal de considérer ça comme acceptable. Tu es un supporter normal, tu veux aller au stade avec ton fils voir un match et tu ne peux pas parce que il y a des mecs qui ont fait des problèmes, mais même pas au stade, hein, en dehors, à Lausanne, donc à Servette, tu ne pourras pas y aller voir le prochain match. C'est absurde, c'est le degré zéro de la discussion, c'est le degré zéro du règlement d'un problème, et au contraire, ça va réveiller des inimitiés, des rancœurs, et ça va susciter des problèmes. Donc c'est stupide à tous les niveaux.
Vincent, tu es d'accord ?
Ouais, alors c'est pas un sujet que je maîtrise complètement parce que je suis pas dans les milieux ultra. Ce qui est sûr, c'est que les belles images en fait de ce week-end, oui, elles mettent en valeur ces communautés de supporters. En revanche, dire vous voyez, on peut se mettre où on veut, on peut emmerder le monde et puis pas suivre vos sanctions et ça se passe bien. En fait, moi, je serais plutôt pour que ça se passe bien tout le temps et que les images coulent. On en est tous les week-ends et qu'en fait, le foot, ça reste un moment d'émotion, de partage très Personnellement, je suis pour les fumilles. Hein. Enfin, moi, je trouve que ça amène quelque chose à un événement sportif. Après, quand c'est encadré, c'est encore mieux. Ce qui me manque, en fait, c'est le sentiment que les clubs et les clubs d'ultra, ils n'aient pas un dialogue plus constant, plus constructif, que les choses se passent bien. Après, les autorités, et pour ce qui est en dehors des stades, oui, je trouve qu'on flique beaucoup trop les ultras. Je trouve que les encadrements sont mal organisés. Et oui, quand on fait passer des supporters sous la tribune d'un autre groupe de supporters, c'est stupide et ça va évidemment créer des débordements. Donc, en fait, moi, je suis simplement pour que le foot suisse comme le foot international, ça reste une fête, que les gens, ils aient le plaisir de venir au stade. Et on l'a vu quand même suffisamment, sans public, sans ultra, sans chant, ben le foot suisse, ce n'est pas le foot suisse. Et c'est un emmerdement total parce que des fois, le spectacle, il n'est pas forcément sur le terrain.
Valentin, on l'a vu, ben moi, j'étais à Lausanne et j'ai pu le voir après 17 000 bières. Quand les ultras, les supporters en déplacement ne sont pas traités comme du bétail, directement, ça humanise et tout se passe mieux. Et puis, tu as le truc aussi, c'est vraiment une déduction débile, mais j'ai vu que ce week-end, les caissiers étaient contents parce que tu vends beaucoup plus cher ta latérale que les places debout habituelles. Et le LS a dû faire 20 ou 30 000 balles de plus que d'habitude.
Oui, bon, je ne pense pas que ce soit à terme, je ne pense pas que ce soit la solution la plus pertinente pour régler tous les problèmes, que ce soit de mélanger tous les supporters non plus. Quoi. Enfin, c'est pas. Je pense que chaque personne vient au stade avec sa propre idée de pourquoi il vient au stade. Il peut ne pas venir au stade parce qu'il n'est pas fan de ce qui se passe sur le terrain, mais aimer l'ambiance d'un stade, aimer la dynamique d'une tribune, la vie qu'il peut avoir une tribune, le fait d'oublier ses problèmes, il y a une forme d'exutoire aussi. Et ça, il faut respecter que chaque personne a son propre intérêt de venir au stade, et chaque personne ne vient pas du même milieu et n'a pas les mêmes conditions sociales, conditions familiales, etc. Enfin, donc ça, j'ai pas de souci à ce qu'on dise à certaines personnes. Vous serez peut-être mieux dans cette tribune-là, d'autres vous serez peut-être mieux dans une autre, et qu'elles se trouvent finalement que leur compte dans n'importe quelle tribune. Donc ça me semble quand même être la base pour que ce soit bien organisé, pour que les choses se passent bien. Et évidemment que la question de l'accueil et la question de la... Disons que si on peut partir du principe que les autorités, notamment les forces de police, n'ont pas une forme de présomption de culpabilité. Dès qu'un mec chante un petit peu, met une casquette ou même met une cagoule dans la rue pour chanter son amour à son club, ou alors à la rigueur même insulter le club adverse, ça en fait pas de toi un criminel notoire et qu'il faut traiter comme du bétail, comme tu disais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un peu décousu, mais c'est quelques réflexions qui me viennent comme ça.
Daniel, il y a aussi le truc. Alors, on parle beaucoup, oui, alors c'est à cause des clubs, à cause des supporters qui a tous ces problèmes, mais ça coûte très très cher aux clubs. La sécurité, au LS, c'est quasiment 1 million. Le SLO perd de l'argent les jours de match à cause, entre guillemets, de la sécurité. C'est aussi beaucoup d'argent, un gros investissement.
Mais le SLO perd de l'argent à cause de la sécurité pour sécuriser qui ?
Non, ouais,
non, mais... Cela dit, oui, ça coûte de l'argent, la sécurité, d'accord, mais raison de plus pour embrayer un dialogue et ne pas avoir comme simple réponse que la répression, parce que la répression va engendrer de nouveaux problèmes, c'est une évidence. Les ultras, ils sont pas plus cons que les autres, ils ont des moyens d'aller au stade, même si c'est pas dans leur tribune, parce qu'elle est fermée, et ils ont déjà annoncé clairement la couleur, ils ont dit il y aura pas de football sans nous. Donc, de deux choses l'une. Soit on estime que ce sont des dangereux personnages qui n'ont rien à faire dans un stade, alors que précisément, il n'y a pratiquement jamais de débordement à l'intérieur d'un stade, il y en a peut-être en dehors, mais à ce moment-là, la force publique doit intervenir pour régler les problèmes. Peut-être même, et je suis capable de l'entendre, que les ultras eux-mêmes doivent se distancier de ceux qui posent des problèmes et qui viennent précisément lors de certains matchs pour autre chose que le football et pour créer des problèmes, généralement en dehors des stades, puisqu'à l'intérieur, encore une fois, il est très rare d'avoir des débordements, eh ben, entamons un dialogue avec eux. Ils ne sont pas plus cons que les autres. Ils arrivent à entendre aussi leur intérêt. Et leur intérêt, c'est que les matchs aient lieu avec eux. Et c'est quelque part aussi l'intérêt du football. Parce que franchement, pour avoir vu des matchs à huis clos pendant le Covid, ou alors les deux matchs entre de Servette et de Lausanne devant les tribunes à 90% vide, ben forcément, c'est un peu tristounet, c'est, euh, c'est la mort du foot quelque part. Les ultras sont une partie du football, il faut le comprendre, l'accepter, essayer d'aller dans leur sens et de aussi faire un effort, bien évidemment. Mais ça, c'est le sens même du mot dialogue. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Il y a un marteau qui s'écrase sur leur tête systématiquement pour un fumigène, pour un mouvement de foule ou pour des choses comme ça. Et on les interdit de stade parce qu'ils ont craqué un fumigène, alors que dans d'autres pays, c'est autorisé. Il y a sans doute un chemin à faire là aussi.
Vincent, après, il y a les problèmes d'infrastructure aussi. Toi, tu as tourné dans à peu près tous les stades. Il y a un gros problème à Lausanne avec ça. Et ça, tant que ce ne sera pas réglé, il y aura des problèmes.
Ouais, c'est le problème aussi d'y réfléchir avant. Une fois que tu as déterminé, ça c'est la tribune des supporters à domicile et ça c'est la tribune des supporters à l'extérieur, le chemin fait que t'es embêté, quoi. C'est rarement planifié. C'est le cas dans certains stades, mais c'est rarement planifié au point de se dire, OK, soyons intelligents à faire les choses comme ça. C'est le cas dans les stades qui sont bien pensés. C'est pas le cas malheureusement à la Tuilière pour ce point spécifique. Après, le stade est très bien. Hein. Pas de problème avec le stade de la Tuilière qui est une belle enceinte. C'est le problème de tout ça, et Daniel l'a relevé, c'est qu'en fait la répression va faire qu'il y a de l'agressivité dans certains groupes. Et puis en fait, tu as une escalade de l'agressivité qui fait que tu as des débordements. Encore une fois, Daniel l'a dit, en dehors des stades. Et après, on se retrouve à fermer des tribunes parce qu'on veut plus de problèmes. Et le cas extrême, ça devient la Ligue 1, où finalement, il n'y a plus un déplacement possible de supporters. Et là, les prétextes, ils sont encore pires qu'en Suisse. Hein. C'est même pas une bagarre dans une gare. Il suffit d'un moindre truc. Puis on dit, ah non, ça, c'est trop de boulot. Ça, on les laisse pas venir. C'est plus simple.
Il y a le salon de l'agriculture à Limoges. On n'a plus assez de flics à Caen.
Les Ballois qui pouvaient pas aller à Nice, je crois que c'était aussi assez exceptionnel. Enfin, voilà. Moi, je suis évidemment contre les sanctions collectives. Je pense qu'il y a aussi des lois du pays qui s'appliquent quand il y a des débordements dans les gares ou dans les ou à l'entour des stades. Et puis de punir l'ensemble d'une tribune ou un club parce qu'il y a quelques individus qui n'arrivent pas à respecter les lois. Je trouve ça regrettable et clairement, c'est pas la solution.
Valentin, tu as écrit sur le sujet, hein. À Lausanne, c'est insoluble, c'était mal pensé au départ. Les bus, ils veulent plus venir parce que certains les pètent. Et puis, le métro, que de toute façon, les ultras ne prendraient pas, il sera construit en 2030. Donc, il n'y a pas de bonne solution.
Je ne sais pas s'il y a bonne solution. Je ne suis pas un ingénieur en urbanisme. Je ne sais pas qu'est-ce qui est possible ou pas à Lausanne. Je ne connais pas suffisamment toutes les la configuration des rues, etc. Mais je pars du principe que quand un groupe de supporters, en l'occurrence le COP Sud, propose des solutions, propose des alternatives, on peut au moins donner le sentiment qu'on les écoute un petit peu et faire semblant de discuter un petit peu avec eux. Je ne suis pas sûr que la réponse qu'ils auraient donnée, c'est-à-dire on ne veut pas débattre avec vous, on ne veut pas entrer en discussion avec vous, soit la plus intelligente et la plus pertinente qui soit. Je pense que la police a tout aussi une responsabilité de dialogue aussi avec les supporters. Alors évidemment qu'ils n'ont pas envie de discuter forcément avec la police ces jours-là, et on peut comprendre pourquoi aussi. Mais je pense qu'on peut au moins leur donner le sentiment qu'ils ont un petit peu de crédit et puis qu'ils ont une voix qui peut compter également dans la société, et surtout quand il s'agit d'un sujet qu'ils maîtrisent quand même très bien, c'est-à-dire aller dans un stade de foot. Donc voilà.
Je pense bien que les ultras de Lausanne connaissent mieux le milieu des ultras que les politiciens de Lausanne. Ça, on n'est pas à l'abri. Hein. Daniel, il y a un truc à Genève ou dans d'autres stades, d'avoir une gare à côté où tu passes direct, ça te change la vie. Hein.
Évidemment. Et tous les stades modernes que l'on peut énumérer qui se construisent proches d'une gare et proches d'une desserte.
Ou même de la civilisation,
oui. Et alors, c'est très bien. Il a fallu construire ces stades là-bas sur les plaines du Loup. On constate que ça pose des problèmes, puisqu'il faut traverser toute la ville pour arriver à ce stade à pied si les bus ne vous amènent pas. Alors, les ultras qui ont accepté dans le bus des gens qui saccagent le bus, on leur parle de responsabilité, bien évidemment. Mais néanmoins, à la base de la construction de ce stade, il y a déjà un problème quant au choix de l'endroit. Parce qu'il n'est pas desservi par une gare. Or, c'est le cas de tous les nouveaux stades qui se sont construits ces dernières années. Et c'est ça qui pose problème. Il n'y a pas de sens de l'anticipation. Et derrière ce non-sens de l'anticipation, il y a de la répression parce que c'est la seule réponse qu'on veut apporter à un débat de fond, finalement. Et derrière, encore en sous-main derrière tout ça, il y a l'idée des billets nominatifs qui hérissent le poil de tous les ultras, ce que je veux bien entendre d'ailleurs, parce que quand tu vas quelque part pour t'acheter un billet de quoi que ce soit, on ne demande pas ton nom, ton adresse, ton passeport. Et le foot devrait être à cet endroit-là. Je tiens à préciser aussi qu'une université, l'université de Berne a fait une étude et a démontré par A plus B que les billets nominatifs ne résoudront aucun problème. Donc, franchement, derrière tout ça, il y a beaucoup de questionnements. Il y a une seule réponse jusqu'à présent, la répression. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ce paradigme-là parce qu'il amène nulle part.